Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre à quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Médar Mbuyal Mangala. Il est rédacteur en chef au principal de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNC. Il est aussi directeur du Centre des Formations ICEA, Institut Congolais de l'Audiovisuel, ex-Sevosa. Bonjour Médar Mbuyal Mangala.
Bonjour Guy Maté.
Maître Timothée Mbuya, il est président national de l'ONG Justicia Akbel, basé à Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Donc, il est membre de la société civile de cette province. Bonjour, Maître Timothée Mbuya.
Bonjour, Monsieur Dimaté. Bonjour, tout le monde.
Et en ligne depuis Johannesburg, en Afrique du Sud, Madame Stéphanie Waltorf, elle est chercheuse à l'Institut Sud-Africain des Relations Internationales. Bonjour, Madame Stéphanie Waltorf.
Bonjour Guy et bonjour aux auditeurs de la Radio Capi.
Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de sept derniers jours de la semaine.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Nous sommes d'un regard sur la clôture de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Médar Mbuyal Mangala. Il est rédacteur en chef principal de la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC. Il est aussi directeur du Centre de Formation ICEA, Institut Congolais de l'Audiovisuel, ex-Sevosa. Maître Timothée Mbuya, membre de la société civile du Haut-Katanga, il est président national de l'ONG Justicia Akbel, basé à Lubumbashi dans cette province. Et en ligne depuis Johannesburg, en Afrique du Sud, Madame Stéphanie Waltorf, elle est chercheuse à l'Institut Sud-Africain des Relations Internationales. Au menu de cette émission, le déploiement de la force de la SADC Samir RDC dans l'est de la RDC. Pourquoi l'Union européenne devrait annuler son protocole d'entente signé avec le Rwanda portant sur l'exploitation des minerais dits stratégiques? Et enfin, le ministre de l'Industrie de la RDC invite les investisseurs à investir en RDC. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire sur la journée internationale dédiée aux droits de la femme. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, c'est le thème retenu au niveau international pour la célébration ce vendredi 8 mars de la Journée internationale des droits de la femme. En RDC, cette journée est célébrée sous le thème « Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire ». Médar Mbuyal Mangala, la RDC célèbre cette journée dédiée aux droits de la femme dans un contexte de guerre dans l'est de la RDC. N'est-ce pas une occasion pour se souvenir, n'est-ce pas, de ces femmes et jeunes filles avec toutes ces personnes vulnérables obligées de se déplacer constamment, errant dans la nature pour chercher ou s'abriter contre les actes de cette guerre qui nous est imposée?
Le moment est véritablement bien indiqué pour permettre à la voix congolaise d'être entendue, de rappeler au monde, de rappeler à l'humanité. Il y a des femmes congolaises qui sont en train de souffrir. Il y a des femmes congolaises qui sont en train de subir des humiliations. Il y a des femmes congolaises qui sont en train d'être tuées. Il y a des femmes congolaises qui sont en train d'être chassées de leur terre. Alors, on ne peut pas célébrer la Journée internationale des droits de la femme en ignorant les souffrances de la femme congolaise. On dit, c'est une belle occasion, c'est une opportunité pour permettre à l'humanité de ne pas oublier la femme congolaise. La femme qui est en train de souffrir, les enfants congolais qui sont en train de souffrir, les vieillards qui sont en train de fuir leur maison, qui sont contraints d'abandonner leur village, d'abandonner leur plantation, d'abandonner les élevages pour errer dans la nature. Alors, je me dis, célébrer pareille journée et oublier la souffrance de la femme congolaise, ce n'est rien faire. C'est une opportunité pour que toutes les organisations à l'international qui ont toujours célébré, qui ont toujours eu de l'intérêt pour la vie ou la situation de la femme, que toutes ces organisations international, régional ou sous-régional, comprennent qu'il y a un véritable, il y a pratiquement le génocide contre la femme congolaise qui est en train de se dérouler dans le silence. Alors donc, on n'a pas de raison de garder silence. C'est une occasion de rappeler au monde, de rappeler à l'humanité que le Congolais est en train de souffrir, que le Congolais est en train de vivre l'humiliation au quotidien. Donc c'est une occasion, une opportunité de dénoncer tous ces faits-là.
Merci, Maître Timothée Mbuya. Vous êtes activiste des droits humains, n'est-ce pas qu'en cette occasion, on devrait se pencher sur les droits bafoués de toutes ces femmes, ces jeunes filles, objets de violences à beaucoup d'égards, dans nos foyers, nos familles, nos universités, écoles, même au travail, en fait, dans la société en général.
Tout à fait. Je pense que les droits, c'est vrai, les droits congolais en matière de protection de la femme, a sensiblement évolué ces 5-10 dernières années, parce que vous vous rappellerez que la constitution qui régit le pays pendant ces temps est l'une de celles qui traite de la question de la parité entre hommes et femmes au monde. Mais notre problème n'est pas un problème des textes, n'est pas un problème de l'inexistence des beaux textes, mais plutôt un problème de manque de bonne volonté. Manque de bonne volonté politique, manque de bonne volonté dans les universités, manque de bonne volonté dans nos familles, bref, manque de bonne volonté dans toute notre société fait que la femme ne puisse pas jouir effectivement de tout le droit tel que garanti, tant par les instruments juridiques internationaux que par les instruments juridiques nationaux en RDC. Et donc, malheureusement, ça fait que la femme soit toujours dans une situation de précarité, dans une situation difficile, parce que d'une part, vous avez l'existence de loi, et de l'autre, vous avez ce que j'ai appelé tantôt les manques de bonne volonté pour aider la femme à jouir de ses droits, et par conséquent, la femme se retrouve dans une situation telle que elle ne sait pas quel mécanisme exact saisir pour faire valoir ce droit qui sont quotidiennement violés. Vous avez, par exemple, parmi les mécanismes auxquels la femme devrait impérativement recourir, il y a les mécanismes juridictionnels, et malheureusement, les animateurs des juridictions eux-mêmes sont cités parmi les acteurs au sein de leur société qui ne permettent pas à la femme de jouir effectivement de ce droit. Vous avez parlé de la société. Les animateurs de ces institutions font partie intégrante de cette société qui refuse que la femme puisse vraiment accéder à l'intégralité de tout ce droit. Et comme je le disais tantôt, malheureusement, la femme est dépouillée de toute force, dépouillée de toute possibilité pour faire valoir ses droits, pour faire entendre sa voix et par ricochet faire respecter ce droit. Donc la femme est dans une situation vraiment très difficile et très troublante. Une situation qui dépasse même la précarité dans laquelle elle était hier, lorsque il n'existait pas de mécanismes légaux de protection de la femme, elle est aujourd'hui dans une situation très difficile parce que même à l'existence de ces mécanismes légaux de protection de ce droit, aucun avancement n'a été observé sur le terrain et donc les femmes continuent à souffrir, les femmes continuent à être victimes de leurs droits dans leur société, dans leur propre famille, par leurs parents, par leurs frères, ou par les autres membres de la société.
Merci, Madame Stéphanie Wattos. Vous avez suivi Mme Mbuya Mangala et Maître Timothée Mbuya. Maître Timothée Mbuya vient de dire que, pour lui, les droits de la femme ont évolué en RDC, en se basant, n'est-ce pas, sur les systèmes normatifs. Mais il dit que seules les lois ne suffisent pas. Et s'il vous est demandé de faire une sorte de bilan de la lutte pour la promotion des droits de la femme depuis que cette journée internationale a été officialisée par l'Assemblée générale des Nations Unies, qu'est-ce que vous pouvez dire, Madame Stéphanie Wattos?
Je crois d'abord que ça dépend évidemment du pays. Il y a des pays où il y a eu des avancées très importantes. Mais pour moi, à vrai dire, je ne suis pas un grand adhérent de cette journée-là. Pour moi, c'est une façon de se dédouaner du devoir, justement, de vraiment intégrer les droits des femmes et l'égalité des femmes dans le quotidien. Donc une journée par an où tout le monde défile, où il y a des grandes discussions autour des droits des femmes, ça suffit pas pour changer une réalité qui existe depuis des centaines et des centaines d'années. Et donc pour moi, c'est vraiment un projet de société. Un changement, c'est quelque chose qui se fait au niveau des familles, justement, comme disait Maître Timothée, au niveau de la société. Il faut commencer avec un respect, avec la compréhension entre les hommes et les femmes, que les femmes sont égaux, ont les mêmes capacités, les mêmes droits, les mêmes pouvoirs, les mêmes intelligences, ainsi de suite, qu'ont les hommes. Et de vraiment intégrer ça dans une société, c'est un grand projet qui prend justement beaucoup d'années. Et je crois que le Congo, du point de vue égalité des femmes, est encore malheureusement loin. C'est pas que les textes, c'est comme disait Maître Timothée aussi, un manque de volonté. Même si on regarde politiquement, il y a très peu de femmes dans la politique. Il y a eu une candidate à la présidence, à ma connaissance, dans les élections de 2022.
Il y avait deux candidates, voilà.
Mais qui étaient peu connues et qui n'avaient pas un grand soutien ni une grande plateforme politique. Je crois que ça nous dit beaucoup de choses sur le rôle des femmes. Évidemment, la RDC n'est pas le seul pays où on a ce problème. Il y a beaucoup de pays en Afrique où l'égalité homme-femme est encore loin d'être la réalité, et même ailleurs dans d'autres parties du monde. Mais c'est pour ça que pour moi, cette journée, je l'aime pas beaucoup, parce que je me dis c'est une façon pour ceux qui ne veulent justement pas l'égalité des femmes de se dire, bon, on a fait cette journée, on l'a fêtée, on a respecté les femmes le 8 mars, et après, on oublie pour encore une année.
Merci, merci. On prend une petite pause avec Femmes commerçantes de Pongolov et on revient juste après. C'était Femmes commerçantes avec celle qu'on appelait la voix limpide du Zaïre Pongolov, qui à travers cette chanson incite la femme à développer l'esprit d'initiative. On revient à l'actualité cette semaine. Les chefs des forces de défense des quatre pays membres de la SADC et du Burundi annoncent leur détermination à imposer la paix dans la zone affectée par l'activisme de la rébellion du M23. Ils l'ont affirmé samedi 2 mars à l'issue d'une mission de 3 jours à Goma au Nord Kivu. 5 chefs d'état-major généraux des pays suivants se sont réunis jeudi et vendredi pour évaluer les opérations conjointes en cours dans le cadre de la mission de la SADC en RDC. Il s'agit de l'Afrique du Sud, le Malawi, la Tanzanie, la RDC et le Burundi. À l'issue des 2 jours de travaux, les 5 chefs militaires ont promis, entre autres, de renforcer les troupes de la mission de la SADC engagée aux côtés des troupes burundaises et des FRDC contre la rébellion du M23. Ils ont aussi mis en place des stratégies pour imposer la paix dans la région. C'est ce qu'a déclaré devant la presse le porte-parole militaire des FRDC, le général-major Sylvain Ekenge, au sortir de toutes ces rencontres. Madame Stéphanie Walters, vous êtes chercheuse à l'Institut sud-africain des relations internationales. Vous avez opté pour ce sujet. On peut savoir pourquoi.
Bon, d'abord, je suis basée en Afrique du Sud, donc évidemment, c'est un sujet qui concerne le pays où je vis, mais aussi parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est évidemment un développement très important pour l'Est de la RDC. Le déploiement de la SAMI RDC a lieu après le départ des troupes de la communauté est-africaine. On sait très bien que finalement, il n'y a pas eu de terrain d'entente entre Kinshasa et ses troupes-là par rapport au mandat contre les M23, et donc ils sont partis. Maintenant, il y a un nouveau regroupement régional, donc la SADC, qui investit dans une opération militaire à l'est de la RDC, à un moment où, nous le savons tous, il y a plus de combats, le M23 s'approche de la ville de Goma, et donc on est dans une situation très tendue. On a vu aussi, depuis que les quelques centaines de troupes de l'Afrique du Sud qui sont déjà arrivées, qu'il y a eu depuis lors déjà des attaques sur leur camp. Il y a aussi le fait que le Rwanda s'agite énormément diplomatiquement par rapport à la présence de la SAMI RDC. Ils ont écrit au Conseil de sécurité des Nations Unies, ils ont écrit à l'Union africaine, s'opposant formellement à ce déploiement et accusant cette force de combattre à côté des FDLR. Donc je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de dynamiques à discuter, à vraiment à bien comprendre pour savoir est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que ça va vraiment changer la donne à l'Est. De quoi faut-il peut-être avoir un peu de caution et où est-ce que tout cela va nous mener? En même temps, nous savons qu'évidemment, il y a aussi des initiatives, pas militaires, mais diplomatiques, que tout le monde essaye de mettre en œuvre. Voilà.
Oui, ces chefs des forces de défense des 4 pays membres de la SADC plus le Burundi annoncent leur détermination à imposer la paix dans la zone affectée par l'activisme de la rébellion du M23. Madame Stéphanie Walthoff, imposer la paix à votre avis dans un contexte comme celui de l'Est de la RDC passerait par quoi ou se traduirait par quoi?
Moi, à vrai dire, je ne crois pas à une solution militaire de cette situation. Je crois que nous avons, c'est vrai, l'exemple de 2012-2013, quand la brigade d'intervention, qui justement est composée des mêmes pays, l'Afrique australe, a pu imposer une défaite militaire sur les M23. Mais les conditions étaient différentes en ce moment-là. En 2012-2013, il y avait eu de la pression énorme sur le Rwanda pour arrêter son soutien au M23. Et ça a marché. Donc le Rwanda a arrêté de soutenir cette force-là. Et donc finalement, quand la brigade est arrivée, elle a dû se battre contre un M23 qui était beaucoup plus faible qu'avant. Aujourd'hui, en 2024, on a un M23 qui est déjà plus fort que le M23 à sa plus grande force en 2013. Et donc je crois que imposer une défaite militaire est plus compliqué et plus difficile. Je crois aussi que le Rwanda, quand on regarde ses communications ces dernières semaines, est davantage déterminé à ne pas se laisser défaire par cette force-là. Et donc, pour moi, tout ça ne passe pas par une solution militaire. Il ne faut pas non plus oublier la chose la plus importante, c'est que ces opérations militaires, qu'elles soient la force est-africaine, qu'elles soient le M23, que ce soit les FRDC, imposent un maximum de dégâts sur la communauté civile. La population civile souffre. Donc, pour moi, je comprends très bien qu'il y a des enjeux militaires qui ont un impact, évidemment, sur aussi les négociations, les discussions qui arrivent à la table de négociation avec le plus de pouvoir. Et c'est ça, pour moi, tout l'enjeu militaire qu'on est en train de voir aujourd'hui. Mais il faut, à mon avis, vraiment aller très, très vite avec les solutions diplomatiques pour arrêter les combats. Et pour une fois pour toutes, essayer de donner un peu de soulagement à cette population-là qui, en plus de ses forces régionales, est aussi dans un contexte où il y a les Wazalendo, où il y a les anciens groupes armés qui se sont maintenant ralliés du côté FRDC. Donc, quand moi, je pense à l'est de la RDC aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de groupes militaires qui sont en train de se battre. Et je ne vois pas que ça va nous mener à une vraie paix dans l'est de la RDC.
Merci, Médard Mouyal Mangala. Vous êtes rédacteur en chef principal de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNC. Vous êtes aussi directeur du Centre de formation ICA, Institut Congolais de l'Audiovisuel, ex-CEVOSA. Imposer la paix peut signifier aussi utiliser la force. Or, on sait que les rebelles du M23 sont soutenus par l'armée rwandaise. Donc, cela voudrait dire que cette force de la SADC pourrait faire la guerre aussi au Rwanda. Comment vous comprenez cela, Médard Mouyal Mangala?
Non, la SADC ne vient pas pour faire la guerre au Rwanda. Et c'est justement, c'est la confusion dans la propagande rwandaise de faire passer, je pense que la SADC vient, c'est pour contraindre le M23 à quitter le territoire congolais. Parce que c'est la République démocratique du Congo qui est menacée, c'est la République démocratique du Congo qui est agressée. Le Congo se bat pour récupérer la totalité ou la souveraineté sur son territoire. Et là, justement, la diplomatie rwandaise joue à l'ambiguïté. Tantôt, elle prend le devant du M23, tantôt elle fait avancer le M23. Alors, on a du mal à identifier quel est l'acteur principal. L'acteur principal, certes, c'est le Rwanda. Depuis le génocide intervenu en 1994 et depuis la prise du pouvoir par Paul Kagame à travers la paix, le Rwanda a construit sa stratégie sur l'exploitation des minerais stratégiques, des matières premières en République démocratique du Congo pour sa prospérité. Et donc, le Rwanda n'a pas intérêt d'avoir une République démocratique du Congo restaurée, réhabilitée, capable d'assurer sa propre défense. Alors, le Rwanda tient beaucoup à la vulnérabilité de la RDC pour se justifier à travers des diplomaties, à travers des organes. Et donc, là, ça pose justement un sérieux problème. Quel est le rôle du Rwanda dans cette affaire? C'est démontrer. Les rapports des experts des Nations Unies ont déjà démontré que c'est le Rwanda qui est en train d'armer le M23. Le M23 n'est rien d'autre que le supplétif de l'armée rwandaise. Et même à ce niveau-là, il y a de l'ambiguïté. Souvenez-vous, l'année dernière, au Togo, le président rwandais a parlé qu'il était à la recherche des terres. Imaginez quelqu'un qui a déjà présidé l'Union africaine. Et un des éléments pour solidifier l'Union africaine, ce n'est pas toucher aux frontières acquises de la colonisation. Mais voilà que le Rwanda veut bâtir une nouvelle diplomatie en Afrique, aller à la recherche des terres en Afrique. Et ces terres-là, il les a trouvées en République démocratique du Congo. Les terres rwandaises ne sont jamais en Ouganda. Les terres rwandaises ne sont jamais au Burundi. Les terres rwandaises ne sont pas en Tanzanie. Les terres rwandaises ne sont pas au Kenya. Donc, ça démontre la mauvaise foi, la stratégie du Rwanda d'anéantir la République démocratique du Congo et de jouer sur la diplomatie à l'international. Au moins cette fois-ci, de plus en plus, les rapports, même la MONUSCO qui par moment, c'est aussi un discours ambigu, reconnaît qu'elle est face à une armée bien organisée, une armée qui a des matériels sophistiqués.
Merci.
Ces matériels sophistiqués peuvent venir d'où? Comment un petit groupe peut se retrouver subitement avec des matières, alors qu'il n'a pas d'issue à l'extérieur, sinon sur le Rwanda lui-même. Donc voilà, cette opportunité pose en fait le débat de l'implication de la communauté internationale ou de l'hypocrisie de la communauté internationale à intervenir dans la situation congolaise, dans la crise congolaise, dans le défi congolais.
Merci.
Le défi congolais se restaurer, réhabiliter, avoir accès à la souveraineté nationale et internationale, ce qui gêne le Rwanda, tant que le Rwanda va vivre de l'exploitation des ressources minières stratégiques de la RDC, le Rwanda est devenu aujourd'hui un pays important dans l'exportation du coltan. Ça démontre tout à fait l'enjeu de la guerre. L'enjeu de la guerre, c'est l'occupation des espaces territoriaux. L'enjeu de la guerre, c'est l'exploitation des minerais.
Merci. Merci, Maître Timothée Mbouya. Vous êtes membre de la société civile du Haut-Katanga et président national de l'ONG Justicia Asbel, basée à Lubumbashi. Lorsque l'on entend les discours de ces chefs d'état-major, lorsque l'on sent, n'est-ce pas, leur détermination, on se rappelle tout de suite le langage que tenaient les commandants de la force de l'EAC, mais on connaît la suite. Compte tenu de la position des partenaires de la sous-région, la position de l'Union africaine et de toute la communauté internationale, qui prône plutôt une approche pacifique, comment vous entrevoyez la mission de cette force de la SADC dans ces contextes?
Alors, je commence d'abord par faire remarquer que ça fait déjà plus de 20 ans que cette partie de la République démocratique du Congo est sérieusement perturbé, que la paix est sérieusement mise en cause et que des populations sont en train de mourir. On rappelle que depuis que cette guerre a commencé, entre 5 à 10 millions de personnes qui ont été victimes, largement au-dessus et des victimes causées par les génocides au Rwanda et même des victimes qui ont été causées lors de la Seconde Guerre mondiale. 5 à 10 millions de personnes tuées, sans compter le nombre de personnes déplacées, sans compter également le nombre de biens détruits. Nous ne parlons pas de l'environnement qui a été sérieusement détruit pendant ces 20 années. Eh bien, les dégâts sont énormes. Il y a une catastrophe qui est en train de se vivre en ce moment en République démocratique du Congo. Mais maintenant, face à cela, la communauté internationale, je comprends, elle se met dans la posture de développer une rhétorique de paix, une rhétorique de dialogue, une rhétorique pacifique ou, si vous voulez, diplomatique. C'est tout à fait compréhensible. Moi-même, en tant que militant des droits de l'homme, je suis par définition un militant de la paix, je suis contre la guerre. Mais là, nous sommes devant une réalité, plus de 20 ans, que toutes les voies diplomatiques, j'insiste bien, toutes les voies diplomatiques ont été explorées. Il ne faut pas qu'on se leurre. Cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui ou les efforts diplomatiques n'ont pas commencé il y a quelques mois. Ces efforts ont été entrepris depuis presque 30 ans maintenant et nous sommes toujours à la case de départ. En fait, votre question est très intéressante. Aujourd'hui, il y a la mission de la SADC qui est dans nos murs, qui essaye tant soit peu d'apporter la paix que nous recherchons, nous Congolais, parce que je n'ai pas vu un seul Congolais qui a traversé les frontières pour aller semer les désordres dans un autre pays, mais je constate seulement qu'il y a un pays qui est en train d'agresser un autre pays, et le monde, malheureusement, est en train de s'éteindre. La rhétorique du dialogue, la rhétorique de la paix, la rhétorique diplomatique, je rappelle, ce sont des bonnes rhétoriques, mais qui ne produisent pas des effets maintenant. Et si le Rwanda est en train de se jouer et du monde et de la RDC, c'est simplement parce que le Rwanda est conscient que l'armée congolaise est une armée désorganisée, une armée incapable de lancer une attaque, de lancer une offensive jusqu'à repousser l'ennemi d'où il est venu. C'est peut-être pour cela que le Rwanda souffre en même temps le chaud et le froid. Et la communauté internationale, malheureusement, est en train de jouer à ces jeux-là, pendant que au Congo, il y a des millions de personnes qui sont en train de souffrir. Il y en a qui ont déjà perdu les leurs, il y a des femmes qui sont violées, et ainsi de suite. Et la communauté internationale trouve qu'on doit inviter le Rwanda à une table de négociation, on doit caresser Paul Kagame, et ainsi de suite. Moi, je pense que si les gens sont honnêtes avec eux-mêmes, si les gens sont corrects, s'il y a de la bonne volonté dans la communauté internationale, je pense que cette guerre finirait les mêmes jours. Quand on parle de la diplomatie, quand on parle de voie diplomatique, il suffit simplement que toutes les grandes puissances du monde que l'on connaît disent à Paul Kagame, messieurs, si on te retrouve encore au Congo, eh bien tu vas avoir des problèmes avec toute la communauté internationale. Kagame n'est pas plus puissant que tout le monde, il va reculer. Mais le problème, c'est qu'on dit à Kagame, publiquement on le dit, attention, là tu avances sur un terrain qui n'est pas le tien, et en clandestinité ou en cachette, on l'encourage. On l'encourage justement. Mon confrère venait de parler tantôt de l'exploitation des minerais par le Rwanda comme l'une des grandes raisons qui poussent le Rwanda à persister et à rester au Congo. Et hein, je crois que la communauté internationale est là. Ces pays qui vont acheter au Rwanda les minerais que le Rwanda est en train de voler au Congo, et bien, c'est une façon, c'est une prime, c'est un encouragement.
Merci, merci. Merci, merci, chers auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Le dimanche 3 mars dernier, c'était l'anniversaire de la naissance de Ndombe Opetum, dit Pépé Ndombe, qui est né à Bandundu le 3 mars 1944 et décédé à Kinshasa le 24 mai 2012 à l'âge de 68 ans. Pour lui rendre hommage, on va écouter l'une de ses meilleures compositions intitulée Voyage na Bandundu et revient juste après.
Koti masua o mama nanani naza kokende nzela ya mosala nzela ya bandundu mbala liboso mama ngana kei ngana kei mwasi pe bana nyonso natiki na kisasa soki sanga ezali na mikanda bokindelanga Boye di mala muna keize la ya mosala Na koti masuwa na kona na ebale ya Zaïr To tiki ebale ya Zaïr to koti maya kasai To tiki maya kasai to koti maya filu Maya banko konze la ya bandundu Kimboka mabaya Nalani na mbeto na kopanza bana na ngai Na komi na kutu kaka nenge moko mama Naleki na kokende Maya maina me Soki boyoki na kupi na maya lakie Goya ni te tina moko te mama Mosala miziki nzambe ya ponela ngai Mosala koye manga na pona mama Soki boye kilelo na komi na lombo e Kuka mwani te mokili mosi bobo mwani Sibola e Mosala miziki eponi ekolote Mosala miziki ezali na empe Soki boyo kilelo na komi na hoke Longo mapia embaka na Afrika nja Brazo spe abetaka na Afrika nja
Radio Okapi Regard sur l'actualité de la semaine
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur la journée internationale dédiée aux droits de la femme. Nous avons également analysé le déploiement de la force de la SADC dans l'est de la RDC. Nous avons dans cette émission Médard Mbouyal Mangala, il est rédacteur en chef au principal de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Il est aussi directeur du centre de formation ICA, Institut Congolais de l'Audiovisuel Ex-Sevosa. Maître Timothée Mbouya, il est membre de la société civile d'Yokatanga et président national de l'ONG Justicia Asbel, basée à Lubumbashi. Et en ligne depuis Johannesburg, en Afrique du Sud, Madame Stéphanie Walters, elle est chercheuse à l'Institut Sud-Africain des Relations Internationales. Un protocole d'entente pour l'exploitation des minerais a été signé le 19 janvier par la Commission européenne et Kigali, ce qui semble aller dans le sens d'une coopération renforcée plus que des sanctions. Il n'y a pas que cet accord sur ce que l'Union européenne appelle les matières premières stratégiques. Il y a aussi des contacts pour un accord de coopération sécuritaire et militaire. C'est une série de gestes inamicaux. L'Union européenne sera complice du pillage des ressources de la RDC et de l'agression du Rwanda contre notre pays, ont affirmé plusieurs responsables des politiques de la RDC. Maître Timothée Mbouya, vous avez souhaité nous parler de ces sujets apparemment. Vous voulez nous expliquer pourquoi l'Union européenne devrait, n'est-ce pas, annuler son protocole d'accord signé avec les Rwandais portant sur l'exploitation des minerais dits stratégiques. On vous écoute.
Alors, c'est vrai, le 19 février 2024, l'Union européenne ainsi que le Rwanda ont signé un protocole d'accord visant à promouvoir le développement des chaînes de valeur durables et résilientes pour les matières premières, entre autres le lithium, les tungstènes, l'or et les tantalites et bien d'autres. Alors, la grande question qui se pose maintenant, c'est celle de savoir quelles sont les motivations réelles qui ont poussé l'Union européenne à signer ces protocoles d'accord avec le Rwanda. Bon, d'abord, nous disons que le Rwanda, comme l'Union européenne, sont souverains, tous les deux, ce sont des institutions ou des institutions souveraines. Elles peuvent signer des contrats ou des accords avec qui elles veulent et sur les matières qu'elles veulent, bien sûr. Mais ça ne voudrait pas dire qu'elles peuvent signer des accords sur toutes les matières ou des accords pouvant même porter, aller en contradiction avec les chartes fondamentales, ou si vous voulez, les différents instruments internationaux, notamment, qui régissent l'Union européenne, ou même qui régissent les nations du monde de manière générale. Par ceci, je sous-entends le fait, par exemple, que pour l'Union européenne, d'accepter de signer avec le Rwanda un accord d'une aussi grande importance, alors que les rapports des Nations Unies, même certains rapports des organisations européennes renommées, même des rapports de plusieurs experts, vous allez par exemple vous référer au rapport Mapping, bref, dans tous ces rapports, il a été clairement dit le rôle que joue le Rwanda dans le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, notamment ces minerais sur lesquels l'Union européenne et le Rwanda ont signé aujourd'hui ces protocoles d'accord. Et donc, la grande question que l'on se pose est celle de savoir comment l'Union européenne est-elle arrivée à conclure cet accord et dans ces conditions-là. Alors, pour nous, la réponse, elle est toute simple. Elle est toute simple dans ce sens qu'elle signifie pour le Congolais, de manière générale, et pour une bonne partie des Africains, elle signifie que l'Union européenne tente de dire clairement son appui ou son soutien au Rwanda dans la désorganisation de l'Est du pays à travers les pillages de minerais. C'est vrai que le Rwanda, on ne peut pas se leurrer, le Rwanda peut avoir ces mêmes minerais, mais en réserve suffisante ou en grande réserve comme la RDC. Ça peut être vrai également que le Rwanda est en train de faire un effort pour exploiter ces minerais, mais c'est vrai, aujourd'hui, c'est traçable, c'est prouvé que la plupart des minerais que le Rwanda est en train d'exploiter et d'exporter sont des minerais qui sont venus du pillage des ressources naturelles de la RDC.
Depuis que l'on a commencé à dénoncer la signature de ces protocoles d'entente, à votre avis, quels sont les gestes qui ont été posés par l'Union européenne et qui peuvent signifier que la RDC a été écoutée?
Alors, je dois dire très clairement que Je dois d'abord apprécier la démarche que l'Union européenne est en train de faire en ce moment, une démarche purement diplomatique. Moi-même qui vous parle, j'ai été parmi des personnes qui ont été reçues par des responsables de l'Union européenne à Kinshasa pour donner un point de vue par rapport aux motivations qui ont poussé l'Union européenne à signer cet accord-là. Et j'ai les informations que la même démarche est entreprise auprès des différentes autorités congolaises, des personnalités congolaises, pour expliquer un peu que, bon, l'Union européenne est en train clairement d'expliquer que, bon, peut-être du côté congolais, nous avons mal perçu la question et qu'à travers cet accord pour l'Union européenne, à travers cet accord, tous les mécanismes vont être mis en place pour notamment faire la traçabilité des minerais du Rwanda et par conséquent, les minerais qui ne seraient pas venus de la RDC ou des mines du Congo ne seraient pas pris en compte, donc ne devraient pas être, si vous voulez, achetés par des pays membres de l'Union européenne.
Merci.
C'est vrai, c'est quand même une explication qui tient, mais la grande question est celle de savoir si l'Union européenne peut, par exemple, aujourd'hui, accepter de signer un accord presque dans le même sens avec un pays comme la Russie. Donc, sur le plan de l'éthique politique, ou même sur le plan du respect des normes au niveau international, je pense que ça pose problème. Peut-être que dans le fond, l'Union européenne peut avoir la volonté de mettre en place un outil qui permettrait de vérifier la traçabilité de ces minerais-là, la transparence dans la chaîne des valeurs, mais la vraie question, la question de départ, c'est une question morale, c'est une question d'éthique, et l'Union européenne aujourd'hui ne peut pas nous convaincre qu'elle signerait un pareil accord avec la Russie qui est en train d'agresser aujourd'hui l'Ukraine.
Merci. Merci, Médard Mbuyal Mangala. En relation internationale, dit-on, seuls les intérêts comptent. Et à votre avis, comment la RDC peut-elle faire pour changer les rapports des forces afin que ces desiderata soient pris en compte?
Mais justement, en dénonçant les faits, nous sommes en présence de faits des minerais de sang. Et nous réalisons que justement l'Union européenne, qui s'est présentée autrefois comme une organisation de la promotion de la démocratie, devient justement une organisation qui s'apparente à une organisation mafieuse. Elle a suffisamment des éléments, elle a des données, elle a des informations capables d'être renseignées que tout ce que le Rwanda est tenté de vendre, ce sont des minerais de sang. Alors aujourd'hui, nous comprenons que la prospérité au niveau des pays de l'Union européenne dans l'exploitation de l'électronique, et les Européens et l'Union européenne doivent savoir que tout ce qu'ils sont en train de faire participe à détruire la République démocratique du Congo parce qu'on est tenté de faire la promo. On va acheter au grand jour les minerais du sang. Si ailleurs les minerais du sang sont interdits, voilà que l'Union européenne veut porter des habits, va maintenant laver avec de la blancheur le minerai de sang vendu par le Rwanda. C'est pas acceptable. C'est pas pareille organisation qui devait servir d'exemple. Aujourd'hui, l'Union européenne est en train de fournir au monde un très mauvais exemple. Ça ne mérite même pas d'être discuté. C'est dangereux. Il faut que la RDC continue à dénoncer au grand jour, quelle que soit la nature des explications, le sang des Congolais, le sang des Congolais qui est en train de couler, c'est aussi avec la complicité de l'Union européenne.
Merci.
Aujourd'hui, c'est établi.
Merci, Madame Stéphanie Walthoff. L'Union européenne serait-elle prête à sacrifier ses relations avec le Rwanda au profit de la RDC?
Ben, je crois qu'on a déjà vu que c'est pas le cas. Ils n'ont pas sanctionné le Rwanda par rapport à son implication et son soutien au M23. Et donc, on voit très bien que jusque-là, ni l'Union européenne, ni d'autres pays importants n'ont décidé de justement sanctionner directement le gouvernement du Rwanda. Donc ça c'est la première chose, et c'est à mon avis c'est ce que nous attendons tous, parce que je crois que ça va quand même marquer une grande différence, un tournement dans le conflit actuel. Je voulais juste ajouter que par rapport à cet accord qui a été conclu, je comprends complètement que c'est à mon avis très maladroit, le timing de cette signature est très mauvaise vu les relations tendues entre les deux pays et vu justement le rôle que jouent les minerais dans le conflit à l'Est. On sait très bien que tout l'or qui est exporté par le Rwanda provient de la RDC et passe de l'autre côté en tant que contrebande. Donc c'est la RDC qui perd énormément d'argent avec ce trafic-là. Ayant dit tout cela, il faut aussi dire que exactement le même accord a été signé entre l'Union européenne et la RDC en octobre de l'année passée, ainsi qu'avec la Zambie. C'est pas unique du tout ce qui a été signé entre le Rwanda et l'Union européenne. Ça fait partie d'un de leurs programmes qui s'appelle Global Gateway. Et c'est une façon de l'Union européenne de s'assurer justement l'approvisionnement en minerais stratégiques. Donc, il faut comprendre ce contexte aussi, même si, évidemment, comme je disais, la signature cette année est très maladroite. Mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est unique à la relation entre l'Union européenne et le Rwanda.
Merci. On prend une petite pause en écoutant justement Sacrifice d'Elton John. On revient juste après.
Love.
C'était Sacrifice d'Elton John, ce célèbre chanteur, pianiste, auteur, compositeur, interprète et acteur britannique naturalisé américain. Elton John fêtera ses 77 ans d'âge le 25 mars prochain. Je rappelle que nous avons dans cette émission Médard Mbuyal Mangala, il est rédacteur en chef principal de la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC. Il est aussi directeur du Centre des Formations ICA, Institut Congolais de l'Audiovisuel ex-CEVOSA. Maître Timothée Mbuya, président national de l'ONG Justicia Asbel, basé à Lubumbashi. Il est membre de la société civile du Haut-Katanga. Et en ligne depuis Johannesburg, en Afrique du Sud, Madame Stéphanie Walters, elle est chercheuse à l'Institut Sud-Africain des Relations Internationales. Un forum économique s'est clôturé jeudi à Kinshasa et devra en principe se poursuivre à Lubumbashi jusqu'à ce samedi 9 mars. À l'ouverture de ce forum à l'étape de Kinshasa, le ministre de l'Industrie de la RDC a invité les investisseurs, notamment étrangers, à se lancer sur l'espace rentable qu'est la RDC afin de faire du bénéfice, notamment dans les secteurs agricoles, celui de l'énergie et des infrastructures. Julien Paloukou a mis en avant la consommation annuelle des Congolais en produits agroalimentaires estimés à au moins 3 milliards de dollars américains et les grands potentiels du barrage d'Inga, l'un des plus puissants barrages hydroélectriques au monde. Mesdames Mbuyal Mangala, vous avez souhaité nous parler de ce sujet. On vous écoute.
Bon, le sujet comme il s'impose à nous, c'est en réalité une interpellation. Une interpellation pourquoi ? Depuis plus de deux décennies, le discours est resté le même. Inviter les investisseurs à regagner ou entrer en contact avec la République démocratique du Congo. L'État congolais s'est doté de mécanismes institutionnels à la manière de l'ANAPI, du guichet unique. Alors, au bout d'un exercice de plus de 20 ans, par exemple, d'existence de l'ANAPI, et par moment, on serait tenté qu'on est en train de faire du surplace. Du surplace, pourquoi ? Parce que s'il faut réécouter le même discours, il y a 20 ans, c'était resté pareil. Et pas seulement cela. Le ministre ou le gouvernement de la République est allé plus loin en créant des zones économiques spéciales. On dirait que tous ces mécanismes ont été créés comme des réponses institutionnelles à ces besoins, à ces désirs assez importants. Mais à l'heure du bilan, on a comme l'impression que le bilan est vraiment mitigé. Donc voilà pourquoi le sujet nous interpelle et on s'est dit, mais pourquoi au bout de plus de 20 ans, la République démocratique du Congo est restée dans le même schéma et n'arrive jamais à décoller, à convaincre. Alors stop, c'est une occasion de remettre pratiquement en question un certain nombre de stratégies qu'on a mises sur place jusque-là. Il y a des mécanismes qui ont fonctionné, et il y a des mécanismes qui n'ont pas fonctionné. Et parmi des éléments qui bloquent justement l'attraction de la République démocratique du Congo, il y a la multiplicité des impôts et des taxes dont on a toujours cessé de parler depuis plus de 20 ans. Il y a trop d'impôts. Aujourd'hui, par exemple, tous les ministères, presque, sont devenus des ministères d'assiette. Donc, c'est des services publics qui se mobilisent pour augmenter le nombre de taxes et d'impôts. On ne peut pas à la fois vouloir mobiliser, lancer des appels aux investisseurs étrangers et même aux investisseurs nationaux tout en créant des mécanismes de blocage du dedans. Qu'est-ce que j'appelle les mécanismes de blocage du dedans? C'est que chaque ministre ou chaque ministère qui se réveille crée ses propres impôts, crée ses propres taxes. Ça porte une mauvaise image aux institutions nationales. Il faut que d'autorité, par exemple le Premier ministre, prenne la décision de supprimer un certain nombre de taxes et d'impôts qu'on a déjà jugés inutiles. Il y a eu des forums, il y a eu des séminaires, il y a eu des sessions qui ont été consacrées au trop plein d'impôts et au trop plein de taxes. Alors, on a comme l'impression qu'on est retourné à la case de départ. C'est bien que le ministre de l'Industrie ait redit ses discours. Mais il ne suffit pas de produire un discours, il faut aussi poser des actes. Il faut poser des actes qui vont dans le sens, effectivement, d'améliorer l'environnement des affaires, de façon à rendre enviable, attractif cet environnement des affaires pour la République démocratique du Congo. Alors ces éléments-là, au niveau de nos administrations-là, posent un sérieux problème et par moments on peut même se poser des questions si notre administration telle qu'elle est en train de fonctionner est à même d'accompagner des réformes, d'accompagner les politiques publiques en République démocratique du Congo. Donc il faut aller vite, il faut bousculer, il faut poser plusieurs actes à la fois, il faut qu'on arrive à supprimer un certain nombre de taxes. Il y a eu des forums qui ont réuni le gouvernement ainsi que les membres de la FEC pour arriver à supprimer des taxes inutiles. Il y a des taxes et des impôts qui sont inutiles, il faut les mettre à l'écart pour effectivement rassurer les partenaires qui sont intéressés par les questions de développement en RDC.
Merci, Maître Timothée Mbouya. Justement, est-ce que les investisseurs ont besoin d'être invités ou c'est plutôt eux-mêmes qui s'invitent là où ils se rendent compte que les conditions pour rentabiliser leurs affaires sont réunies?
La RDC, compte tenu de ses innombrables ressources naturelles, de ses innombrables potentialités reconnues par tout le monde, la RDC ne devrait pas être ces pays qui devraient implorer les gens à venir investir dans le pays. Le gouvernement congolais, en le faisant, démontre à suffisance que pendant toutes ces années, on n'a pas été en mesure d'attirer les gens, d'attirer les investisseurs à venir vers le Congo. Et c'est simple, on n'a pas du tout réussi à attirer des grands investisseurs pour la bonne et simple raison que nous avons un climat des affaires qui ne permet pas aux investisseurs sérieux de venir mettre dans le pays un seul dollar avec espoir que ce dollar puisse permettre à l'amélioration des conditions de vie des Congolais, permettre également que eux aussi puissent retirer des dividendes ou des bénéfices. L'amélioration du climat des affaires a été toujours ce problème que l'on a présenté sur la table du gouvernement, mais malheureusement, comme le confrère Meda vient de le dire, le ministère ou les différents services de l'État confondent pratiquement leur rôle et se mettent à créer ou à inventer les différentes taxes. On a l'impression qu'en RDC, les services sont dans une course effrénée de l'enrichissement, un enrichissement sur le dos des contribuables, un enrichissement sur le dos de la population. Et dans un environnement comme celui-là, quel est cet investisseur sérieux qui viendrait? Médard a parlé tantôt du guichet unique. Savez-vous que le guichet unique, par exemple ici à Lubumbashi où je suis, ne fonctionne pas depuis plusieurs années? Donc aujourd'hui, on ne peut plus créer à Lubumbashi, on ne peut plus créer une entreprise le même jour quand on remplit toutes les conditions. Il faut par contre faire des va-et-vient dans les services, il faut par contre payer de l'argent de manière indue à des personnes et ainsi de suite. Bref, tout ceci rend difficile, rend presque impossible l'attraction des investisseurs sérieux vers d'autres pays. Vous savez, par exemple, nous avons des mines. Moi je suis dans une province minière. Qu'est-ce que nous n'entendons pas des miniers? Chaque jour, ils sont tracassés par des services Paris grec, même par des personnalités politiques influentes. Chaque jour, on tracasse ces gens. Et chaque fois que vous tracassez ces entreprises minières, chaque fois que vous les tracassez, sachez que l'information va quelque part. Et quand l'information va circuler dans le monde entier, vous pensez qu'il y a un seul investisseur sérieux qui va venir chez nous? Non. Ils vont en Zambie, ils vont peut-être au Rwanda, malheureusement, même si ces pays nous agressent. Ils vont dans les pays où ils pensent que les minimums de conditions sont respectés et sont respectables. Le loi, comme je le disais avant, le loi, nous les avons. Vous avez toutes sortes de bonnes lois dans ces pays, mais vous avez également toutes sortes de mauvaises volontés de la part des gens qui dirigent ces pays. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on se met dans la posture d'un pays qui n'a pratiquement aucune ressource à vendre au monde et qui est en train d'implorer les gens à venir participer, investir. Alors que nous devrions, par nous-mêmes déjà, voir des gens se bousculer sur la porte du Congo pour venir investir et nous devrions sélectionner parmi les meilleurs. C'est de notre faute.
Merci, Madame Stéphanie Walters. Que devrait faire la RDC pour que ce message à l'endroit des potentiels investisseurs soit effectivement pris en compte?
Non, moi je crois que Médard et Maître Timothée ont tout dit. Je crois que les conditions ne sont pas réunies pour que le pays puisse se vendre effectivement à des investisseurs. Il y a une incertitude par rapport à la justice. Il y a beaucoup de taxes, il y a des complications pour s'installer, il y a l'ingérence politique dans les projets économiques. Je crois que tout le monde a tout dit, il y a la corruption. Et donc aujourd'hui, pour que la RDC puisse réellement attirer les investisseurs qu'il lui faut pour que l'économie puisse grandir et donner des emplois à tous les Congolais qui en ont besoin, c'est une réforme de fond en comble, à mon avis, du système administratif, mais aussi politique de la RDC. Il faut aussi dire que si vous parlez de l'industrie, il y a pas de route en RDC, il n'y a pas de chemin de fer. Et puis, il y a un grand manque d'électricité. Donc, tout ça, ce sont le genre de conditions dont ont besoin les investisseurs, surtout industriels, pour mettre en œuvre leurs usines, ainsi de suite. Donc, je crois que ce n'est pas une question de changer le message, c'est une question de changer la réalité.
Merci, c'est par là que nous finissons cette émission. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Mesdames Mbuya Mangala, Maître Timothée Mbuya et Madame Stéphanie Walters. Merci aussi à Mimi Kindou qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe, Didier Daldi et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Serujangwe. À la présentation Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Kapi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiokapi.net. On se sépare avec Mosele Bende de Likingaredo, chanson sortie à 1982 dans l'orchestre Zaiko Langalanga et on se retrouve le samedi prochain.
Ay, 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 ay Ye bisanga, ngoli kamuna ye batima.